celui qui écoute un survivant le devient.
La voix des témoins. Une histoire du témoignage de la Shoah. Ce podcast accompagne l'exposition La voix des témoins, que vous pouvez visiter au Mémorial de la Shoah à Paris du 19 mai au 29 août 2021.
Écouter un témoin, c'est devenir ce témoin. Alors quand même, on nous écoute aujourd'hui. Pas assez peut-être, mais en tout cas on nous écoute. Donc nous sommes des faiseurs de témoins. Donc on laissera des témoins.
Une série produite par le Mémorial de la Shoah.
Peu de temps après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945, des fouilles archéologiques sont lancées sur les lieux à la recherche de traces, de preuves de ce qui s'y est produit. Dès le début de l'année 1945, à l'endroit des crématoires sont ainsi retrouvés des manuscrits enroulés, écrits en yiddish, en grec et en français. Les membres des Sonderkommando, détenus juifs chargés de vider les corps des chambres à gaz, y avaient enterré des témoignages alors qu'ils savaient leur liquidation imminente. Ces papiers sont les premiers témoins, leurs auteurs, eux, n'ont pas survécu. Ils sont aussi des actes de résistance à l'égard de l'entreprise nazie qui avait pour but et pour méthode la suppression de toute trace du génocide. 76 ans après ces fouilles, les témoignages dont nous disposons sont innombrables. De nature différente, sur des supports variables, ils entretiennent à l'égard de la Shoah une distance qui naturellement s'étend à mesure que le temps passe. Le témoin est devenu une figure à part entière de notre espace public et de la mémoire collective qui s'y construit. De clandestine, la voix des témoins est devenue publique. Une voix, des voix que chacun peut entendre dans des films, à la radio, dans les classes, à la télévision ou entre les lignes des nombreux ouvrages qui ont paru et continuent de paraître. Retracer l'histoire du témoignage permet de rendre hommage aux témoins mais aussi d'interroger la figure du témoin. Comment s'est-elle façonnée? Quand ont-ils commencé à parler et quand a-t-on été en mesure de les entendre? Dans cette série, en 5 épisodes, nous vous proposons de retracer cette histoire du témoignage en France, de 1942 à 2018, pas à pas, accompagné des plus grands historiens français et à travers des archives exceptionnelles.
Je me souviens que je cours d'un escalier à l'autre. Je me souviens que je n'arrive pas à descendre du premier étage tant les tirs se précisent. Je suis seule dans la maison. Il me faut à tout prix sortir pour gagner la porte dérobée au fond du parc qui donne sur les bois. Je me souviens, la peur au ventre, je parviens à sortir de la maison. Mon père, mort d'inquiétude, m'attend derrière un arbre à l'orée du parc. Je me souviens n'avoir vu que lui. Nous courons comme des fous vers le fond du parc, dans le noir. Je me souviens. Je suis devant lui, je tire le verrou de la porte. Je dis, ça y est papa, nous sommes sauvés.
Aujourd'hui, premier épisode avec Annette Viviorca. De 1942 à 1949, témoignage d'un monde englouti.
Les premiers témoignages sont ceux d'un monde englouti et ils ont comme caractéristique que si le texte a survécu, les auteurs de ces textes, eux, ont péri. Avec le déclenchement de la guerre en septembre 1939 et l'effondrement, la disparition de la Pologne et le début de la persécution des Juifs et notamment le fait qu'ils sont très vite séparés de la population et mis dans des ghettos, certains ont le sentiment qu'ils vivent une période inédite de l'histoire juive. C'est le cas, par exemple, de l'historien Emmanuel Ringelblum, qui commence à écrire son journal, qu'il tiendra jusqu'à son décès, et qui met aussi sur pied une entreprise sans pareil dans l'histoire, qui est une entreprise d'archivage de toutes les traces de la vie dans les ghettos. Ça va des programmes, des spectacles dans le ghetto, des journaux tenus par ceux qui y habitent, et des traces de l'administration juive du ghetto, le Judenrat.
Nous sommes dans un bunker, 40 personnes, hommes, femmes, enfants, assises côte à côte dans la pénombre.
Le temps du ghetto, Frédéric Rossif, 1961.
Nous entendons le bruit des batailles sur nos têtes. Nous avons peur. En même temps, nous sommes fiers. Des Allemands, mères des mains des nôtres. Léa et son enfant sont à 2 mètres de moi. Son enfant pleure. Léa, subitement, pour nous sauver, étrangle son enfant. J'entends son dernier soupir. 10 minutes après, nous sommes pris.
Varsovie, le 16 mai 1943, secret. Objet, grande opération dans le ghetto. 180 juifs, bandits sous hommes, ont été anéantis. Le ci-devant quartier juif de Varsovie n'existe plus. L'explosion ayant détruit la synagogue de Varsovie, les grandes opérations ont pris fin. La totalité des juifs capturés et de ceux dont l'extermination a été prouvée s'élève à 56 065. Le chef des SS et de la police du district de Varsovie, signé Strop.
Les premiers témoignages sont destinés à l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que ils ont des destinataires qui ne sont pas connus, puisqu'il y a ce sentiment qu'il n'y aura plus de juifs, mais c'est l'attestation que le peuple juif a existé et la description de son martyrologe. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir les langues dans lesquelles ils sont écrits. Donc il y a à peu près toutes les langues, le polonais, l'hébreu, le yiddish. Mais certains d'entre eux, je pense notamment à Abraham Levin, changent de langue à partir des grandes déportations de 1942. Ils passent du yiddish, qui est la langue vernaculaire normale, à l'hébreu, qui est quand même une langue sainte. Comme s'il fallait marquer qu'il y avait une sorte de sainteté à consigner ce qu'a été le sort de ces Juifs. Il y a le sentiment que ce n'est pas simplement le peuple juif dans son ensemble, mais ce peuple juif qui a créé une culture, la culture yiddish, qu'on appelle la Yiddishkeit, et que c'est ce peuple-là qui sera rayé de la terre. Et Rachel Hertel dit qu'il y a un double assassinat des personnes, mais aussi assassinat d'une langue.
C'est ensuite au moment de l'ouverture des camps que l'on va déterrer les premiers témoignages, ceux qui ont été portés au plus près de la machine d'extermination et dans la plus grande clandestinité. Ce sont les manuscrits des Sonderkommando.
À Birkenau, à Auschwitz-Birkenau, un certain nombre de détenus qui travaillaient à ce qu'on appelle le Sonderkommando, commando spécial, c'est-à-dire qui étaient affectés aux chambres à gaz crématoires et au traitement des corps, ont aussi porté témoignage. Ils ont écrit des textes qui sont des textes terribles, hein. On les lit avec les cheveux qui se dressent littéralement sur la tête. Et ce sont des témoignages qui racontent, en fait, qui attestent ce qui se passe dans ces chambres à gaz. Et ils enterrent ces témoignages dans la terre. Et on peut dire qu'il y a une double histoire de ces témoignages, l'histoire de leur rédaction, mais aussi l'histoire de la façon dont ils sont parvenus parmi nous, puisqu'ils ont été découverts les uns et les autres à des dates différentes et très souvent par la suite de hasard. Les témoignages des membres du Sonderkommando, la première publication a été faite sous le nom des rouleaux d'Auschwitz. Les rouleaux, c'était par analogie avec les rouleaux de la Torah, c'est-à-dire l'appellation qui leur a été donnée était faite pour montrer un caractère quasiment saint de ces textes.
Les plus forts, les plus héroïques parmi nous se sont effondrés dès l'instant où on nous a amenés ici.
Manuscrit retrouvé de Zalman Leventhal, membre du Sonderkommando d'Auschwitz, lu par Didier Sandre.
Mais la vérité, c'est qu'on a envie de vivre à tout prix. On a envie de vivre parce qu'on vit, parce que le monde entier vit, et tout ce qui est agréable à tout ce qui est lié à quelque chose est en premier lieu lié à la vie. Je dois dire la vérité. Plus d'un s'est à tel point, avec le temps, laissé aller que c'en est une honte pour soi-même. Sans le vouloir, cela devient banal et l'on s'habitue à tout, et ainsi les événements n'impressionnent plus. On crie, on regarde, indifférent, périr quotidiennement des dizaines de milliers d'hommes. Et puis, rien. Mais il s'est trouvé de rares personnes pour ne se laisser en aucun cas influencer par l'habitude, pour ne pas laisser la chose devenir banale, pour ne pas se laisser entraîner. Malgré les dures conditions que tous au camp avaient endurées, il n'avait pas été si facile d'en arriver à s'accoutumer à l'idée qu'il fallait bien penser au lendemain, ne plus attendre qu'on vienne nous conduire au bunker comme tous ceux qu'on y conduisait quotidiennement, venant aussi bien de l'extérieur que du camp même. Au début, nous nous tenions entre juifs. Nous avons compris que c'était aussi avec nos relations d'autrefois, membres des mouvements ouvriers ou intellectuels indépendants, mais nécessairement des hommes de gauche, parmi les milieux polonais du travail, qu'il fallait s'entendre. Et nous avons ramifié notre action un peu plus largement. Une fois en contact avec tous les milieux, nous avons entamé le travail pratique de préparation à quelque chose de concret. Nos alliés, ceux qui travaillaient dans d'autres commandos, des Russes pour la plupart, nous ont procuré, grâce à leurs nombreux efforts, quelque chose de substantiel. Il est vrai que cela a été très difficile d'y parvenir. Peu de temps après, on a appris qu'on s'apprêtait à amener ici les Juifs hongrois pour les brûler. Nous avons été effondrés jusqu'au dernier d'avoir à brûler 1 million de Juifs hongrois. Nous en avions assez. Nous en avions plus qu'assez depuis longtemps. Devrons-nous encore tremper nos mains dans le sang des Juifs hongrois? Cela a amené tous les hommes du commando, sans distinction de classe ou de milieu, et même les plus réservés, à tempêter pour qu'on mette fin à ce jeu, qu'on en finisse avec ce travail, ainsi qu'avec notre vie, si nécessaire.
Mère, père, femme, enfant, il n'est pas un Français qui n'attend d'un de ceux-là, les prisonniers de la drôle de guerre. Certes, la route est longue entre le camp et le foyer. Il faut d'abord finir la guerre pour qu'ils sortent libres. Il faut ensuite prévoir leur retour, ce retour magnifique et douloureux. Déjà, le ministère des prisonniers, déportés et réfugiés a pris des mesures. On constitue des stocks qui seront mis tout de suite et le plus loin possible à la disposition des revenants. Mais il faut faire plus et mieux. C'est à cette œuvre que toute la France va participer. Pensez à eux. Pensez à ceux qui, un jour, les barrières abattues, convergeront par tous les chemins d'Allemagne vers ce pays qui est le leur encore plus que le nôtre.
Après les marches de la mort et les grandes difficultés que rencontrent les rescapés au moment du retour, vient la période de l'immédiate après-guerre. Si une idée reçue consiste souvent à dire qu'à ce moment-là, les déportés ne parlaient pas, la question semble être plutôt, les a-t-on écoutés ?
Alors aujourd'hui, On refait beaucoup l'histoire, tout d'un coup, on en parle, on dit que après Auschwitz, plus rien ne sera pareil, on l'a dit tout de suite d'ailleurs, et puis on essaye de comprendre pourquoi on n'en a pas plus parlé, pourquoi... Je crois que ça vaut la peine d'essayer de savoir pourquoi.
Simone Veil, 1988.
Mais qu'il ne faut pas refaire l'histoire autrement qu'elle n'a été, en disant c'est parce que les déportés n'ont pas voulu en parler, c'est parce qu'ils ont cherché l'oubli eux-mêmes. Ce n'est pas vrai du tout. Il suffit de voir le nombre de rencontres qu'ils ont entre eux. Et je dirais la joie qu'ils ont à se retrouver. Mais si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre. On n'a pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent, à nous tous, que quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l'interruption. Il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose, parce que nous gênons. Profondément nous gênons. Pour des raisons probablement très profondes, qui ne sont pas simplement le fait qu'on veut nous faire taire par indifférence, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre.
Le mouvement de témoignage en yiddish se continue dans l'immédiate après-guerre par la constitution de ce qu'on a appelé les Zikerbücher, qui sont les livres du souvenir. Ce sont des livres collectifs, écrits par les survivants, qui font l'histoire de leur shtetl ou de leur ville d'origine, Varsovie, Otwock, Konsk, et la description de la façon dont leur communauté, leur ville a été détruite. C'est un premier courant. Et puis, il y a aussi les témoignages de ceux qui ont survécu, non pas dans les ghettos, mais qui ont survécu dans les camps. Et contrairement à l'idée reçue, ils ont voulu parler, ils ont voulu témoigner, mais très vite, les éditeurs qui ont beaucoup publié, quand même, il faut leur rendre hommage, il y a des dizaines de témoignages, soit des camps de concentration ordinaires, entre guillemets, soit d'Auschwitz-Birkenau, qui sont publiés par les plus grands éditeurs. Mais très vite, ces témoignages ne trouvent pas de public et leur publication se tarit. Donc, contrairement à ce qu'on dit, si la parole ou l'écrit des survivants n'a pas été entendu, c'est parce que la société n'avait pas d'appétence pour entendre ce type de récit. Ils sont publiés pour certains d'entre eux, parce que d'autres qui avaient été rédigés dans ces années du retour, je pense par exemple au témoignage d'Odette Abadi, qui a été publié, je crois, dans les années peut-être même 90. Un certain nombre de ces témoignages avaient été écrits dès le retour. Ou même le témoignage d'Elie Wiesel. Elie Wiesel écrit une sorte de brouillon immédiatement, puis il le reprend en yiddish dans une collection yiddish installée en Argentine, Le Juif polonais, Der Polische Yid, me semble-t-il. Et ensuite, grâce aux soins de Jérôme Lindon, immense éditeur, ça devient La Nuit, qui est un livre qui se vend bien, qui est assez rapidement un best-seller. Donc effectivement, il peut y avoir une contradiction, mais moi je ne vois pas une contradiction, puisqu'ils écrivent, on les publie, mais on ne les lit pas.
Les Américains sont arrivés le 11 avril dans le camp pour nous libérer. Or, à partir du 5 avril, on ne mangeait plus. Parce que les Allemands voulaient liquider le camp, évacuer, le faire sauter. Et chaque jour, 10 000 personnes étaient évacuées et tuées.
Elie Wiesel, 1966.
Au moins 100 fois, j'étais prêt à partir. Parce que je savais que tout le monde partira. Alors pourquoi ne pas être parmi les premiers? Et c'est comme par hasard que j'étais toujours au-delà de la quota. Et finalement, le 11, il y avait une résistance dans le camp qui s'est soulevée. Quelques heures après, les Américains sont arrivés. Et là, ils ont fait une chose humaine, mais qui avait eu des conséquences tragiques. Ils nous ont donné à manger trop vite. Et nous étions empoisonnés. 5 000 personnes ont été tuées. Moi, je suis tombé malade. Pendant 2 semaines, j'étais dans le coma. Au bout de 2 semaines, on m'a sauvé. Et j'étais très, très faible. Et je me trouvais dans une chambre d'hôpital qui, avant la libération, était l'hôpital des SS. Et je me souviens que au-dessus du lit ou en face, il y avait un miroir. Et ce miroir me fascinait. Parce que ça faisait plus d'une année que je ne me suis plus vu. Je voulais voir comment est-ce que j'ai l'air. C'était, si vous voulez, la prise de conscience. Le premier moment libre pour moi, c'était cette image dans le miroir qui me regardait, que je savais que je ne l'oublierais plus. Donc, un principe acquis, c'est celui-ci. Il faut se souvenir. Parce que, à l'intérieur du ghetto et du camp, il y avait toujours cette phrase qui revenait. Quand les gens s'en allaient à la mort, ils disaient aux autres, « Souvenez-vous, attention. Savez-vous que même dans les chambres à gaz, à Treblinka et à Auschwitz, vous pouvez voir sur les murs des inscriptions telles que « Souvenez-vous, vengez-vous, n'oubliez pas ». Et ces inscriptions ont été faites avec des ongles. Et ces gens n'étaient dans la chambre à gaz que 3 minutes ou 5 minutes au maximum. Pour moi, c'était cette image dans le miroir.
Vous êtes revenu à la vie avec cette idée qui était une idée de vengeance ou bien...
Mais non, une idée de souvenir, de témoin, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai vu, maintenant il faut la compter.
Dans cette période de l'immédiate après-guerre va avoir lieu un événement déterminant, le procès de Nuremberg. Il se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est Göring. Les accusés sont munis d'écouteurs qui leur permettent de suivre les débats dans l'une des 4 langues officielles du procès. 400 journalistes sont venus du monde entier.
Alors le procès de Nuremberg, dont l'importance est considérable, est un procès où il y a eu extrêmement peu de témoins. Les témoins qui ont été appelés par l'accusation ou par, par la défense ont été des témoins qui étaient là pour préciser un certain nombre de faits. Le seul procureur qui ait largement fait appel à des témoignages de survivants des camps, c'est le procureur français, le procureur adjoint français, qui s'appelait Dubost. Et Dubost a appelé à témoigner un certain nombre de personnes venant de différents camps. Et parmi eux, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Marie-Claude Vaillant-Couturier, c'est une grande dame, une personnalité du monde communiste, et elle a fait partie de ce seul petit convoi de femmes qui s'est retrouvé, pour des raisons qu'on n'a jamais pu éclaircir, à Auschwitz. Et qui est célèbre aussi parce que parmi ces femmes, il y avait la grande écrivaine Charlotte Delbo. Et c'est elle qui va être appelée à la barre pour témoigner et de ce qu'a été Auschwitz-Birkenau et de ce qu'a été le camp où elle a été transférée après, qui est le camp de Ravensbrück. C'est la seule femme, pratiquement la seule femme appelée à témoigner. Et c'est un témoignage qui est saisissant sur ce qu'elle a vu de la destruction des Juifs à Birkenau. Mais on n'appelle pas pour témoigner d'Auschwitz un survivant juif, car cette déportation, elle est présente la destruction des Juifs d'Europe est présente au procès de Nuremberg, mais elle n'est pas présente en soi. Elle est présente en quelque sorte dispatchée dans l'ensemble de l'accusation ou des accusations.
Combien êtes-vous revenu sur 230 ?
49.
Témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier, le 28 janvier 1946.
Il y avait dans le transport de vieilles femmes, entre autres, je me souviens d'une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz.
One moment.
Moins vite, s'il vous plaît.
When you said only 49 came back, did you mean that only 49 arrived at Auschwitz?
No, only 49 came back to France.
Not France. Go on. Yes.
Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz. Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève du lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz. Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le tribunal militaire allemand. Elles s'appellent Marie Alonso et Marie-Thérèse Fleury. Elles sont mortes à Auschwitz. Si l'on arrivait bientôt, ils nous ont répondu, si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressés d'arriver. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz. Ça se trouve dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Puis on nous a conduits. En passant le porche, nous sentions tellement qu'il y avait peu de chance d'en ressortir, car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail. Qu'en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage.
Bientôt s'ouvrent les années 1950, qui vont être marquées par le tarissement des publications et l'émergence de nouveaux témoignages, comme celui d'Anne Frank. Nous y reviendrons dans l'épisode suivant, accompagné de l'historien et philosophe François Azouvi.
La Voix des témoins est une exposition qui a lieu au Mémorial de la Shoah à Paris entre janvier 2020 et août 2021. Cette exposition est constituée d'un parcours d'écoute, d'archives et de documents inédits que vous pouvez aussi retrouver par écrit dans le catalogue de l'exposition et en images à travers une visite guidée sur la plateforme de France Télévisions et sur la chaîne YouTube du Mémorial. Ce podcast est produit par le Mémorial de la Shoah en partenariat avec l'INA. Texte, voix, interview, Léa Weinstein. Réalisation, Alexandre Babéanou. Merci à Annette Viviorca, Natacha Nizik, Jean-Yves Pouillat, Sophie Nagiscard, Lucille Lignon et Flavie Bitan. Archive INA, Dies Blo.